Arthur Conan Doyle, Mémoire d'un médecin. Le lot numéro 249. Il est très possible qu'on ne sache jamais exactement à quoi s'en tenir sur les relations d'Edward Bellingham et de William Monkhouse Lee et sur les causes de la grande frayeur éprouvée par Abercrombie Smith. Nous possédons, il est vrai, le récit clair et détaillé de Smith lui-même, auquel viennent s'ajouter les témoignages du domestique Thomas Size, du révérend Plumpton Peterson et de quelques autres personnes qui, toutes, furent à même de recueillir un aperçu des divers incidents qui se groupent autour d'événements vraiment singuliers. Mais, somme toute, Smith a été le principal témoin de ces événements et les lecteurs se sentiront plutôt portés à croire qu'un cerveau parfaitement sain en apparence a éprouvé un léger choc, quelque étrange commotion, et ils admettront difficilement que le cours ordinaire de la nature ait pu être bouleversé au grand jour dans un centre aussi éclairé, aussi scientifique que l'université d'Oxford. Pourtant, en songeant combien est étroit et difficile ce sentier de la nature, en considérant les difficultés avec lesquelles nous le suivons à tâtons, malgré toutes nos lumières de la science, lorsque nous envisageons les grandes et terribles éventualités qui surgissent, toujours environnées de mystères, nous sommes obligés de convenir qu'il est bien orgueilleux et bien téméraire celui qui prétend circonscrire les grandes lignes de la vie au milieu desquelles s'égare l'esprit humain. À l'angle d'une des ailes du bâtiment que nous appellerons le vieux collège d'Oxford, il existe une tour de construction très ancienne. L'arche antique qui surplombe le porche voûté a cédé au centre sous le poids des années et les blocs de pierre grise, couverts de lichen, apparaissent reliés et enlacés par des brins d'osier et des guirlandes de lierre, comme si la vieille mère nature avait voulu les protéger elle-même contre le vent et la tempête. De la porte par un escalier de pierre qui monte en spirale à deux étages pour se terminer au troisième. Les marches en sont usées et creusées par le passage de plusieurs générations d'étudiants avides de science. La vie a coulé comme un ruisseau le long de ses dalles. Comme l'eau, elle a creusé derrière elle ses sillons réguliers mais peu profonds. Depuis les étudiants pédants aux longues robes des Plantagenets jusqu'aux jeunes gens des temps modernes, tous y ont passé et ont contribué à former ce flot de brillantes jeunesses scolaires. Que reste-t-il maintenant de ces belles espérances, de ces efforts, de ces fières énergies? Rien que quelques rares inscriptions sur les pierres des anciens cimetières et peut-être une poignée de cendres humaines dans un cercueil en pourriture. Pourtant, on retrouvait bien conservé cet escalier et le vieux mur gris avec leurs coudes, leurs pans affaissés et leurs nombreuses devises qui, encore lisibles, ressemblaient à autant de vieilles ombres projetées par le temps passé. Au mois de mai 1884, trois jeunes gens occupaient les appartements séparés qui donnaient sur le vieil escalier. Chaque appartement consistait en un salon et une chambre à coucher, tandis que ces mêmes pièces, au rez-de-chaussée, servaient l'une de chambre à charbon, l'autre de chambre pour le domestique Thomas Size, qui faisait le service des trois jeunes gens habitant au-dessus de lui. À droite et à gauche s'ouvrait une suite de salles de lecture et de bureaux qui permettait aux habitants de la vieille tour de s'enfermer dans une certaine solitude et trouver dans ce logement le calme nécessaire à l'étude. Les trois jeunes gens s'étaient ainsi répartis ce logement. Abercrombie Smith, au troisième étage, Edward Bellingham au-dessous et William Monkhouse Lee au premier étage. Après une belle journée de printemps, sur le coup de 10 heures du soir, Abercrombie Smith était étendu dans un fauteuil, les pieds sur les chenets, sa pipe en racine d'églantier entre les dents. Dans un fauteuil pareil était assis nonchalamment de l'autre côté de la cheminée son vieux camarade de collège, Jeffro Hasty. Tous deux portaient un costume de flanelle car ils avaient passé leur soirée sur la rivière. Mais sans même observer leurs vêtements, il était facile de reconnaître à leurs figures énergiques et hâlées des amateurs de la vie au grand air et de sport, des hommes dont les goûts sont naturellement tournés vers tous les exercices du corps. En effet, Hasty était chef de nage de l'équipe de canotage du collège et Smith avait la réputation de rameur hors ligne. Mais son prochain examen le talonnait et le forçait à travailler, sauf pendant les quelques heures de la semaine où il prenait de l'exercice par hygiène. Un monceau de livres de médecine sur la table, avec des os éparpillés, des modèles et des planches anatomiques, indiquait clairement le genre de ses études. Tandis que quelques cannes et des dents de boxe disséminées sur la cheminée révélaient à quel genre d'exercice il pouvait se livrer en champ clos avec son camarade Rusty. Ils se connaissaient depuis longtemps. Voilà pourquoi ils pouvaient rester assis sans se parler, goûtant ce silence salutaire qui est l'indice indubitable d'une grande intimité. « Prenez donc du whisky, » dit enfin Abercrombie Smith, entre deux bouffées. « L'Écossais est dans le cruchon et l'Irlandais dans la bouteille. »« Non, merci. Je m'entraîne en ce moment à la rame et je préfère ne pas boire d'alcool pour conserver ma bonne forme. » « Je travaille d'arrache-pied mon examen et je crois préférable de laisser le whisky tranquille. » Hasty opina de la tête et ils retombèrent dans un silence profond. À propos, Smith demanda Hasty au bout d'un instant. « Avez-vous fait la connaissance de vos camarades d'escalier ?»« Je les salue quand je les rencontre, c'est tout. »« Hum, je vous engage à en rester là. Je connais quelques détails sur eux, oh, peu de choses, mais ça me suffit. » Je ne chercherai pas à me lire avec eux si j'étais vous, quoiqu'il n'y ait pas grand-chose à dire sur Monkhouse Lee. C'est le plus mince. Justement, il paraît bien élevé, ce petit jeune homme, et je ne lui connais aucun défaut, mais vous ne pouvez pas le voir sans faire la connaissance de Bellingham. Ah, le gros ? Oui, et pour le coup, celui-là, je préfère ne pas le connaître. » Abercrombie Smith leva les yeux et lança à son camarade un regard inquisiteur. « Qu'est-ce qu'on lui reproche ? La bouteille, le jeu, sa mauvaise éducation ? Vous n'étiez pas aussi difficile autrefois. »« Ah, vous ne connaissez pas cet individu, autrement vous n'insisteriez pas. Il y a en lui quelque chose de répugnant, de rampant. Mon cœur se soulève de dégoût quand je l'aperçois. » Je l'accuserai volontiers d'avoir des vices secrets et d'être un osseur de bas étage. Malgré cela, c'est loin d'être un imbécile. On le considère au collège comme un des hommes les plus capables dans la branche à laquelle il s'adonne. Médecine ou études classiques ? Langues orientales, c'est un linguiste enragé. Chillingworth l'a rencontré à la deuxième cataracte, je crois, et m'a raconté qu'il bavardait avec les Arabes comme s'il avait toujours vécu au milieu d'eux. Il parlait copte aux coptes, hébreu aux juifs, arabe aux bédouins. Tous avaient envie de baiser les franges de ses vêtements. Il existe encore dans ces pays quelques joyeux farceurs d'ermites qui vivent sur des rochers et affectent le plus profond mépris pour le voyageur. Eh bien, lorsqu'ils virent cet animal de Bellingham, à peine avait-il ouvert la bouche qu'ils se jetèrent à plat ventre et se prosternèrent devant lui en signe d'admiration. Chillingworth prétend n'avoir jamais rien vu de pareil. Bellingham semblait trouver la chose tout naturelle, il jacassait et se prélassait au milieu d'eux comme un poisson dans l'eau. Ce n'est pas mal, n'est-ce pas, pour un étudiant ? Pourquoi dites-vous qu'on ne peut connaître Lee sans se lier avec Bellingham ? Parce que Bellingham est fiancé à la sœur de Lee. Une charmante fille, Smith. Je connais toute la famille et l'idée de ce mariage me répugne. Il me fait instinctivement penser à l'accouplement d'une tourterelle et d'un crapaud. Abercrombie Smith sourit et se mit à tisonner. Vous étalez toujours votre jeu au grand jour, mon cher. Quelle espèce de méfiant vous êtes. Vous n'avez vraiment pas d'autre grief contre cet individu ? « Mon Dieu, je connais cette jeune fille depuis sa plus tendre enfance, et il m'est pénible de la voir courir un aussi grand risque. Je vous assure qu'il a l'air d'une brute et qu'il a un infect caractère, un caractère de serpent. Vous vous rappelez son histoire avec Long Norton ? Mais vous oubliez toujours que je suis un étudiant de première année. » « Ah, c'est vrai, l'incident se passait l'hiver dernier. Eh bien, voici. » Vous connaissez le sentier qui longe le bord de l'eau. Plusieurs jeunes gens, Bellingham en tête, marchaient en file lorsqu'ils rencontrèrent une vieille femme qui revenait du marché et allait en sens inverse. Il avait plu, vous savez dans quel état sont les prés par la pluie. Le sentier s'étendait entre la rivière et un grand marécage formé par la prairie inondée. Devinez ce que fit ce triste individu. Il resta au milieu du chemin et poussa la vieille dame dans le marais où elle glissa avec son panier de provisions. Cette vilaine action indigna Long Norton, qui est un brave garçon, et il ne se gêna pas pour dire à Bellingham ce qu'il en pensait. De fil en aiguille, ils en vinrent aux voies de fête et Long Norton appliqua un bon coup de canne entre les deux épaules de son ami. Une rixe terrible s'ensuivit. Il faut voir maintenant la tête que fait Bellingham quand il rencontre Norton. « Mon Dieu, Smith, il est déjà près d'11 heures. »« Il n'y a rien qui presse. Rallumez votre pipe. »« Oh non, je suis censé préparer mon examen. Au lieu de cela, je suis resté à bavarder quand j'aurais dû être tranquillement dans mon lit. Je vous demanderai de me prêter votre crâne si cela ne vous dérange pas. William a le mien depuis un mois. Je vous demanderai aussi les petits os de l'oreille si vous n'en avez pas besoin. Merci. » Inutile de me donner un sac, je les porte très bien sous mon bras. Bonsoir, mon cher, et suivez mon conseil pour votre voisin. » Lorsque Hastie eut descendu l'escalier en spirale, avec son colis anatomique sous le bras, Abercrombie Smith vida sa pipe dans son panier à papier et, rapprochant sa chaise de la lampe, il ouvrit un énorme volume à reliure verte contenant de grandes planches anatomiques coloriées, des croquis de ce royaume secret de notre individu dont nous sommes les propriétaires infortunés et impuissants. Quoique nouveau venu à Oxford, il n'en était pas à ses débuts en médecine, car il avait travaillé 4 ans à Glasgow et à Berlin, et l'examen qu'il allait bientôt passer devait lui conférer son diplôme de médecin. Sa bouche énergique, son grand front, son visage aux traits accentués donnaient l'impression d'un homme qui, sans être d'une intelligence transcendante, arriverait par son travail soutenu et opiniâtre à un résultat aussi appréciable qu'un cerveau génial mieux organisé. Un étudiant capable de tenir sa place parmi les Écossais et les Allemands du Nord n'est pas un homme à rester jamais en arrière. Smith s'était fait un nom à Glasgow et à Berlin. Il réussirait aussi bien à Oxford si le succès devait dépendre de son seul travail et de sa persévérance. Il était assis depuis 1 heure environ et les aiguilles de son réveil allaient bientôt se rejoindre sur minuit lorsqu'un bruit insolite vint frapper ses oreilles, un bruit sourd et très spécial cependant, comme le souffle d'une respiration haletante sous le coup d'une vive émotion. Smith posa son livre et tendit l'oreille. Comme il n'avait de voisin ni à côté ni au-dessus de lui, ce bruit ne pouvait venir que de l'étage inférieur, de chez l'individu si mal coté par Hastie. Smith n'avait fait que l'entrevoir et il gardait de lui le souvenir d'un homme pâle, lymphatique, aux habitudes silencieuses et studieuses. Il avait remarqué que sa lampe restait allumée encore plus tard que la sienne. Cette similitude de goût avait créé une espèce de lien tacite entre eux. Lorsque Smith voyait l'aube blanchir à l'horizon pendant qu'il veillait sur ses livres, il lui était doux de penser qu'à côté de lui, un autre homme faisait, lui aussi, peu de cas de son sommeil. Et même, à l'heure actuelle, il se sentait plutôt bien disposé à l'égard de son voisin. Hastie était un brave garçon, assez vulgaire, fortement charpenté, sans imagination et peu communicatif, que celle qui constitue un type solidement trempé. Pour lui, si quelqu'un était incapable de remporter un championnat, il ne valait pas la peine qu'on fît attention à lui. Comme bien des gens robustes, il lui arrivait de confondre le tempérament avec le caractère et d'attribuer à un manque de principe une faiblesse de constitution. Smith, avec son jugement plus sûr, connaissait cette tendance de son ami et il hasardait quelques restrictions en pensant à son voisin de l'étage inférieur. Smith n'entendait plus le bruit régulier qui lui avait fait dresser l'oreille et il allait reprendre son travail lorsque le silence de la nuit fut déchiré par un cri rauque, l'appel d'un homme en détresse. Smith sauta sur ses pieds et ferma son livre. Il n'était pas nerveux, mais il reconnut dans ce cri quelque chose de si perçant, de si effrayant qu'il se sentit glacé jusqu'à la moelle des os. Au milieu de la nuit et dans cette maison d'étudiants, ce cri évoqua à son esprit 1000 fantômes fantastiques. Il se demanda s'il descendrait en hâte ou s'il attendrait. Il avait l'horreur innée des scènes et il connaissait si peu son voisin qu'il lui paraissait impossible de pénétrer chez lui. Il hésita encore. Au même instant, il entendit quelqu'un escalader l'escalier 4 à 4 et le jeune Monkhouse Lee, à moitié vêtu, blanc comme neige, se précipita dans sa chambre. « Descendez, vite » dit-il en haletant. « Bellingham est malade !» Abercrombie Smith le suivit et pénétra dans le salon de Bellingham, mais, malgré son affolement, il eut le temps de lancer un regard circulaire en entrant dans cette pièce. Il n'avait jamais vu un salon pareil. C'était plutôt un musée qu'un cabinet de travail. Les murs et le plafond étaient tapissés d'objets étranges, originaires de l'Égypte et de l'Orient. Des personnages gigantesques et grossièrement représentés, affublés de costumes et d'armes, émergeaient des frises étranges qui entouraient la pièce. Au-dessus, il aperçut des statues à tête de taureau, de cigogne, de chat ou de hibou, à côté de divinités aux yeux en forme d'amande couronnées de vipères. Certains objets revêtaient la forme de scarabées couleur de lapis. Horus, Isis et Osiris étaient placés dans des niches ou sur des étagères, tandis qu'au plafond apparaissait suspendu un vrai fils du vieux Nil, un grand crocodile à la mâchoire effrayante. Au milieu de cette pièce étrange était une grande table carrée, encombrée de papiers, de flacons et de feuilles sèches provenant d'une espèce de palmier. Tous ces objets variés avaient été entassés pour faire place à une momie contenue dans une caisse qu'on avait traînée du mur devant la grande table. La momie elle-même, horrible chose noire, rabougrie et carbonisée, émergeait à moitié de sa caisse. Sa main en forme de patte et son avant-bras osseux s'appuyaient sur la table. Un vieux rouleau de papyrus jaune était posé contre le sarcophage. Devant, dans un fauteuil de bois, il aperçut, affalé, le propriétaire de l'appartement, la tête rejetée en arrière. Ses yeux grands ouverts regardaient avec une expression effrayante le crocodile pendu au plafond. Ses lèvres épaisses et bleues laissaient passer une respiration haletante et bruyante. « Mon Dieu, il va mourir !» cria Monkhouse Lee. C'était un jeune homme élégant et d'une jolie tournure. Son teint olivâtre et ses yeux bruns, d'apparence plus espagnole qu'anglaise, lui donnaient une vivacité d'allure celtique qui contrastait avec le flegme anglo-saxon d'Abercrombie Smith. « Je crois que ce n'est qu'une syncope, » répondit l'étudiant en médecine. « Donnez-moi un coup de main, s'il vous plaît. Prenez ses pieds. Maintenant, sur le canapé. Pouvez-vous envoyer promener tous ces petits diables de bois ? Quel fouillis dans cet appartement ! Il va se trouver mieux une fois son col ouvert et quand il aura bu un peu d'eau. Que diable lui arrive-t-il ? Je ne sais pas, je l'ai entendu crier et, en bon voisin, je suis accouru immédiatement. C'est vraiment très aimable de votre part d'être descendu. Son cœur bat à se rompre, dit Smith en posant la main sur la poitrine de l'homme évanoui. Il a certainement éprouvé une frayeur qui a mis ses nerfs en danse. Jetez-lui de l'eau froide. Quelle figure il a ! Son visage était en effet étrange et effrayant. Son teint et ses traits paraissaient également anormaux. Il était livide, d'une pâleur absolument exsangue qui ne pouvait provenir d'un accès de terreur. Quoique très gras, il avait dû l'être encore davantage, car sa peau semblait distendue et formait des plis à l'infini. Ses cheveux bruns et courts se dressaient, hérissés sur sa tête. Ses oreilles, grasses et ridées, émergeaient largement de son visage. Ses yeux gris étaient restés ouverts et ses pupilles dilatées semblaient en extase devant un point fixe. Smith ne douta pas un seul instant qu'il se trouvât en présence de symptômes manifestes de la terreur et il se rappela, à ce moment, le conseil que lui avait donné Hasty 1 heure avant. « Qui diable a pu effrayer ainsi cet homme ? » se demanda-t-il. « C'est la momie. » « La momie, comment cela ?»« Je n'en sais rien, mais elle est ignoble et repoussante. Je voudrais bien qu'il s'en sépare. Voilà la seconde frayeur qu'il me donne. L'année dernière, le même fait s'est produit. Je l'ai trouvé dans la même position, avec cette horrible carcasse en face de lui. »« Que fait-il donc de cette momie ?»« Oh, il est fou, voyez-vous. Il a une vraie marotte. » L'étude de cette momie le passionne et il en sait plus là-dessus que tous les savants d'Angleterre. Vraiment, c'est désolant. Ah, il revient à lui. » Une faible teinte avait reparu sur les joues livides de Bellingham et ses paupières se mirent à battre légèrement. Il se tordit les mains, commença à respirer entre ses dents et, levant la tête brusquement, il reprit ses sens. Lorsque ses yeux tombèrent sur la momie, il tressaillit sur le canapé, saisit le rouleau de papyrus, le jeta dans un tiroir, le ferma à clé et se rejeta en arrière. « Qu'y a-t-il » demanda-t-il. « Que faites-vous donc, vous autres ?»« Vous avez appelé au secours en nous faisant une fameuse peur, » dit Monkhouse Lee. « Si notre voisin de là-haut n'était venu à mon aide, je ne sais ce que j'aurais fait de vous. »« Ah, c'est Abercrombie Smith, » dit Bellingham en le regardant. « Comme vous êtes aimable d'être descendu. Quel imbécile je fais, mon Dieu ! Quel imbécile !» Il prit sa tête dans ses mains et se mit à rire comme un hystérique. « Écoutez-moi, » lui dit Smith impérieusement en le secouant par les épaules. « Vos nerfs ne tiennent plus ensemble. Il faut cesser vos facéties nocturnes avec les momies ou vous perdrez la boule. Vous ressemblez maintenant à un paquet de fils électriques. » « Je voudrais bien savoir, dit Bellingham, si vous conserveriez votre calme, si, comme moi, vous aviez vu... »«
Vu quoi ?»«
Oh, rien. Je voulais dire que vous ne seriez peut-être pas aussi calme si vous aviez passé une nuit en compagnie d'une momie. J'admets que vous avez parfaitement raison. Je reconnais que je me suis surmené ces derniers temps, mais je me sens bien maintenant. Ne vous en allez pas, cependant. » « Attendez quelques minutes que je sois tout à fait dans mon assiette. » Cette chambre semble renfermée, remarqua Lee en ouvrant la fenêtre toute grande. « Vous reconnaissez l'odeur de la résine balsamique, » dit Bellingham. Il prit une des feuilles de palmier desséchées et la fit brûler au-dessus de la lampe. Une fumée épaisse, une odeur âcre et pénétrante remplirent la pièce. « C'est la plante sacrée, la plante des prêtres, » fit-il observer. « Connaissez-vous les langues orientales, Smith ?»« Pas un traître mot. » Cette réponse parut soulager l'esprit de l'égyptologue. « À propos, continua-t-il, combien de temps s'est-il passé entre votre arrivée et le moment où j'ai repris connaissance ?»«
Pas longtemps, à peu près 4 ou 5 minutes. »
« Je pensais bien que mon évanouissement n'avait pas duré longtemps, » dit-il en poussant un grand soupir. « Mais quelle chose étrange que l'inconscience! Je serais incapable moi-même de dire si mon état s'est prolongé des semaines ou quelques secondes. Ce monsieur que vous voyez sur la table a été mis en caisse au temps de la 11e dynastie, il y a 40 siècles. S'il retrouvait l'usage de la parole, il nous dirait que son sommeil n'a duré qu'un instant, juste le temps de fermer les yeux et de les rouvrir. Elle est fameusement belle, cette momie, Smith. » Smith se pencha sur la table et regarda d'un air entendu cette forme noire et rabougrie. Les traits, quoique horriblement décolorés, étaient bien conservés et les petits yeux, en forme de noisette, semblaient regarder du fond de leurs orbites noires et creux. La peau ratatinée adhérait fortement aux os et une grosse mèche de cheveux noirs tombait sur ses oreilles. Deux dents, pointues comme des dents de rat, recouvraient la lèvre inférieure. Blottie comme elle l'était, les jointures repliées, avec son crâne découvert, cette momie repoussante avait une expression de dureté qui fit frissonner Smith. Les côtes décharnées, recouvertes d'une espèce de peau parcheminée, étaient proéminentes, ainsi que l'abdomen éventré, couleur de plomb, où l'on voyait encore une large entaille, signature de l'embaumeur. Les membres inférieurs étaient entourés de grossiers bandages jaunes. Un certain nombre de petits morceaux de myrrhe et de cassia, ressemblant à des clous de girofle, parsemaient le corps de la momie et étaient disséminés dans l'intérieur du sarcophage. « Je ne sais pas son nom, » dit Bellingham en caressant de la main sa tête racornie. « Vous voyez qu'il manque une inscription à l'extérieur du sarcophage. Je ne le connais que sous le nom du... Lot numéro 249. La caisse porte cette seule inscription. C'était son numéro à la vente aux enchères où je l'ai découverte. Le corps a dû appartenir à un beau gars, remarqua Abercrombie Smith. Voire même un géant. La momie a 6 pieds et demi de longueur. Cette taille serait celle d'un géant dans ces pays où la race est plutôt rabougrie.
Palpez-moi ses os noueux. C'était un fameux gaillard.
Peut-être ces mains-là ont-elles travaillé à la construction des pyramides, dit Monkhouse-Lee en regardant d'un air dégoûté les os jaunis et déformés.
Certainement pas. Cet homme a été conservé dans une atrome et soigné tout particulièrement. On n'aurait pas pris autant de peine pour un vulgaire ouvrier et on se serait contenté de sel ou de poids. D'après une estimation sérieuse, ce genre de momification a coûté environ 730 livres de notre monnaie. Notre ami appartenait certainement à la noblesse. Que pensez-vous de cette petite inscription près de ses pieds, Smith ?
Je vous ai dit que je ne connaissais rien aux langues orientales.
Ah, c'est vrai, je crois qu'elle vient aussi de l'embaumeur qui devait être un monsieur bien consciencieux, ce me semble. Je me demande si un seul de nos travaux modernes subsisterait 4000 ans.
Il continuait à parler avec volubilité et précipitation, mais Abercrombie Smith se rendit compte qu'il était encore sous le coup de sa frayeur. Ses mains étaient agitées, sa lèvre inférieure tremblait, et de quelque côté qu'il regarda, ses yeux s'arrêtaient toujours sur la momie. Mais malgré sa frayeur, il avait, somme toute, une attitude triomphante. Ses yeux brillaient et son pas, en arpentant la pièce, était alerte et décidé. Il donnait l'impression d'un homme qui vient de traverser une crise violente qui l'a fortement secoué, mais dont il est sorti victorieux.
« Vous ne partez pas encore ?» dit-il lorsque Smith se leva. À l'idée de la solitude, il parut de nouveau anxieux et étendit la main pour le retenir.
« Mais il faut que je parte. J'ai à travailler. D'ailleurs, vous allez bien maintenant. » « Je crois qu'avec votre nervosité, vous devriez vous livrer à des études moins malsaines. »«
Oh, je ne suis pas nerveux habituellement et j'ai déjà manié bien des momies. »«
Vous vous êtes évanoui la dernière fois, » objecta Monkhouse-Lee.
« Ah oui, c'est vrai. Eh bien, il me faut un calmant ou une cure d'électricité. »«
Vous ne partez pas, Lee. »«
Je ferai ce que vous voudrez, Ned. »
« Eh bien, je descendrai avec vous et je m'improviserai un lit sur votre canapé.
Bonsoir, Smith. Je suis fâché de vous avoir causé cette alerte. »
Ils se serrèrent la main et, tandis que l'étudiant en médecine montait en tâtonnant son vieil escalier aux marches usées, il entendit le grincement d'une clé dans une serrure et le bruit des pas des autres locataires qui gagnaient l'étage inférieur. C'est cet étrange incident qui marqua la première rencontre d'Edward Bellingham et d'Abercrombie Smith. Ce dernier ne désirait pas autrement cultiver cette relation. Pourtant, Bellingham semblait éprouver une réelle sympathie pour Smith et il lui fit tant d'amabilité qu'il eût été grossier de ne pas y répondre. Deux fois, il rendit visite à Smith pour le remercier. Entre-temps, il lui apporta des livres, des revues, comme peuvent en échanger deux garçons. Smith ne tarda pas à découvrir que Bellingham était un homme de grande érudition, de goût très relevé et doué d'une mémoire extraordinaire. Ses manières étaient si charmantes qu'elles faisaient vite oublier son physique repoussant. Bref, sa société avait beaucoup de charme pour un homme fatigué et surmené, et Smith ne tarda pas à prendre goût à ses visites. Il les lui rendit régulièrement. Malgré toutes ses qualités, l'étudiant en médecine crut remarquer, chez son nouvel ami, quelques indices de folie. Il s'étonna de ces grandes tirades, faites dans un style pompeux, qui contrastaient avec la simplicité de sa vie.
« Quelle merveilleuse impression » s'exclamait-il parfois, « de sentir qu'on peut commander aux puissances du bien et du mal, à l'ange protecteur ou au démon de la vengeance. » Puis, parlant de Monkhouse-Lee, il disait « Lee est un brave, un honnête garçon, mais il n'a aucune ambition, aucune volonté. Il ne serait pas de force à coopérer à une grande entreprise. Il ne pourrait jamais devenir mon associé. » Ces insinuations, ces allusions faisaient sourire Smith, qui, la pipe à la bouche, se contentait de lever les yeux au ciel et de hocher la tête en conseillant à son camarade, dans sa haute sagesse médicale, de prendre plus d'exercice au grand air. Depuis quelque temps déjà, Smith observait chez lui des indices infaillibles d'anémie cérébrale. Il ne cessait de se parler à lui-même. Aux heures les plus silencieuses de la nuit, lorsqu'il n'avait pas de visite, Smith surprenait au-dessous de lui des conversations à voix basse, perceptibles pourtant à une oreille attentive. Ce babiotage d'un solitaire ennuyait l'étudiant et il finit par s'en plaindre à son voisin. Bellingham protesta énergiquement et déclara qu'il n'avait pas articulé un seul mot la nuit. Il se montra d'ailleurs très vexé de cette observation, insignifiante au fond. Si Abercrombie Smith avait eu le moindre doute sur la finesse de son ouïe, il pouvait facilement recourir au témoignage de Tom Style, le petit domestique ridé qui, de temps immémorial, servait les générations d'étudiants qui se succédaient dans la tour. Tom avait certainement dû faire des remarques à ce sujet. « Pardon, monsieur, lui demanda un jour le domestique pendant qu'il faisait l'appartement supérieur. Croyez-vous, monsieur Bellingham, bien sain d'esprit ?»« Que voulez-vous dire, Style ?»« Je demande à monsieur si monsieur Bellingham a toute sa tête. »« Pourquoi ?»« Mon Dieu, je ne saurais le dire, monsieur, mais ses habitudes ont changé depuis quelque temps. Il n'est plus le même homme qu'au commencement. » Je dois d'ailleurs dire que je ne l'ai jamais mis sur le même pied que vous et M. Asti. Il a la détestable manie de se parler à lui-même. Je m'étonne qu'il ne vous dérange pas. Je ne sais que faire de lui, monsieur. Je ne vois pas en quoi cela vous regarde, Stiles. Pourtant, monsieur, je m'intéresse à lui. C'est peut-être une grande liberté que je prends, mais je ne peux m'en empêcher. Il me semble que je suis un peu le père et la mère de tous ces messieurs. Tout me retombe dessus quand M. Bellingham n'est pas satisfait et que ses amis viennent. Je voudrais bien savoir qui marche dans la chambre de M. Bellingham quand il est sorti et qu'il a pris la précaution de fermer sa porte à clé à l'extérieur. Voyons, vous radotez, Stiles. C'est possible, monsieur, mais j'ai entendu plus d'une fois des bruits de pas, j'en suis sûr. Quelle folie, Stiles! « C'est bien, monsieur, vous me sonnerez si vous avez besoin de moi. » Abercrombie Smith ne prêta qu'une faible attention au bavardage du vieux domestique, mais quelques jours plus tard, survint un petit incident qui l'impressionna désagréablement et lui rappela forcément la conversation de Styles. Bellingham était venu le voir un soir très tard et lui faisait une conférence intéressante sur les tombeaux des Beni Hassan dans la Haute-Égypte. À ce moment, Smith, dont l'ouïe était extrêmement fine, entendit très clairement le bruit d'une porte qui s'ouvrait sur le palier de l'étage inférieur. « Quelqu'un vient d'entrer dans votre chambre ou d'en sortir, » fit-il observer à Bellingham. Ce dernier bondit, puis resta immobile un instant, comme quelqu'un qui hésite sous l'impulsion d'une certaine frayeur. « Je l'ai fermé à clé, j'en suis sûr absolument, » affirma-t-il. Personne ne peut l'avoir ouverte. Tenez, en ce moment, j'entends monter l'escalier, ajouta Smith. Bellingham se précipita vers la porte, la ferma violemment et descendit affolé. Smith l'entendit s'arrêter à mi-chemin, puis murmurer très bas. Un instant plus tard, la porte se ferma, une clé grinça dans la serrure, et Bellingham, le visage livide, la sueur perlante au front, remonta l'escalier et entra de nouveau chez Smith. « Ce n'est rien, » dit Bellingham en se jetant sur une chaise. « C'est cet animal de chien qui avait poussé la... Je ne sais pas comment j'ai pu oublier de la fermer. » « Je ne vous connaissais pas de chien, » dit Smith en regardant, étonné, la figure bouleversée de son voisin. « Je l'ai depuis très peu de temps, mais je veux m'en débarrasser. Il me donne trop d'ennuis. En effet, il doit vous gêner s'il vous est si difficile de le tenir enfermé. J'aurais cru cependant inutile de fermer la porte à clé pour le garder chez vous. » C'est pour empêcher le vieux Styles de le laisser sortir. C'est un chien de prix et je ne voudrais pas le perdre. « Je suis amateur de chiens, moi aussi, » dit Smith en observant attentivement son camarade du coin de l'œil. « Voulez-vous me le montrer ?»« Certainement, mais pas ce soir. J'ai un rendez-vous. Votre pendule va bien ? Alors, je suis déjà en retard d'un quart d'heure. Excusez-moi, il faut que je m'en aille. » Il prit son chapeau et partit, mais malgré son rendez-vous, Smith l'entendit rentrer dans sa chambre et fermer sa porte à clé. Cet incident impressionna désagréablement le jeune homme. Bellingham avait menti et cela si maladroitement qu'il devait avoir une raison majeure pour cacher la vérité. Smith savait très bien que son voisin ne possédait pas de chien. Il savait aussi que les pas qu'il avait entendus dans l'escalier n'étaient pas ceux d'un chien. Mais alors, que signifiait tout ceci ? Le vieux Stiles avait aussi parlé de pas qu'il entendait dans l'appartement en l'absence de son maître. Était-ce une femme ? Smith commençait à le croire. Et cependant, il paraissait inconcevable qu'un étudiant pût cacher une femme chez lui sans être immédiatement découvert. Tout cela semblait très louche. Smith promit en rouvrant ses livres de ne pas entretenir une intimité plus suivie avec son voisin à la mine suspecte et à la voix mielleuse. Mais il ne put guère travailler ce soir-là. À peine avait-il repris le fil de ses idées qu'il entendit un pas lourd monter l'escalier 4 à 4. Au même instant, Assis entra précipitamment chez lui en costume de flanelle. « Toujours au travail, » dit-il en s'effondrant dans son fauteuil favori. « Quel enragé vous faites ! Je crois, ma parole, qu'un tremblement de terre pourrait tout bouleverser sans vous troubler. Vous continueriez à étudier tranquillement sans même lever les yeux. Enfin, je ne vais pas vous interrompre longtemps. 3 bouffées de tabac et je m'en vais. » « Eh bien, quelle nouvelle ? » demanda Smith en bourrant sa pipe. « Pas grand-chose. Wilson a gagné 70 points au cricket. » Les autres disent qu'ils le prennent dans leur camp à la place de Buddycombe qui est disqualifié. « Bonne moyenne, » observa Smith, avec la gravité d'un universitaire qui parle de sport. « Oh, à propos, avez-vous entendu parler de Long Norton ?»« Non, qui a-t-il ? » ?»« Il a été attaqué. »« Attaqué ? » ?»« Oui, juste au moment où il tournait High Street, à 100 mètres de la porte de Hold. » »« Mais qui a pu ?» « Ah, voilà la question. Au lieu de qui, il serait plus exact de se demander quelle chose a pu. » Car Norton jure que cette agression ne vient pas d'un être humain, et d'après les égratignures de son cou, je serais assez tenté de le croire. « Alors quoi, nous sommes en pleine chimère ?» Le visage d'Abercrombie Smith exprime un profond mépris scientifique. « Mon Dieu, non !» Je ne crie pas absolument à la chimère, mais je serais assez porté à croire que si un histrion de foire avait perdu une guenon, cet an dernier, dans les environs, on finirait par découvrir que c'est cet animal qui a fait le coup. Norton passe par là presque tous les soirs à la même heure, précisément sous un immense orme dont les branches surplombent le chemin. Norton croit que la chose est tombée sur lui du haut de cet arbre. Quoi qu'il en soit, 2 bras, aussi forts et aussi fins tout à la fois que 2 lames d'acier, l'ont saisi à la gorge en l'étranglant. Il ne vit rien que ces horribles bras qui le serraient de plus en plus fort. Il poussa des hurlements qui firent accourir quelques jeunes gens. À ce moment, l'auteur de l'agression disparut par-dessus le mur en rampant comme un chat. Cette attaque l'a fortement secoué, je vous en réponds. Elle lui a presque autant rafraîchi les idées qu'une cure d'air au bord de la mer. « Il a eu affaire à un malfaiteur, probablement, » dit Smith. « Cela m'en a tout l'air. Norton ne veut pas l'admettre, mais nous ne sommes pas obligés de le croire. L'auteur de l'agression avait des ongles longs et s'est sauvé prestement. À propos, votre charmant voisin a dû être enchanté de cet incident, car il a une dent contre Norton, et je ne le crois pas homme à oublier ses petites rancunes. Mais dites donc, mon vieux, à quoi pensez-vous donc ? À rien, répondit Smith vivement. Il avait tressailli sur sa chaise, et sa physionomie s'était brusquement obscurcie, comme si une idée pénible venait de traverser son esprit. Est-ce que, par hasard, je vous aurais dit quelque chose qui vous a piqué au vif ? « Ah, pendant que j'y pense, vous avez fait la connaissance de M. Bellingham, n'est-ce pas, depuis que je ne vous ai vu ?»« Le jeune Monkhouse Lee m'en a parlé. »« Oui, je le connais un peu, je l'ai vu 2 ou 3 fois. »« Ma foi, vous êtes assez grand pour faire ce qu'il vous plaît. »« Je ne le crois pas, ce que j'appellerais un garçon de tout repos, quoi qu'il soit assurément très intelligent. »« Mais vous ferez votre expérience vous-même. » Lee est parfait sous tous les rapports et un charmant camarade. Eh bien, je cours la coupe du vice-chancelier de mercredi en 8, alors je vous donne rendez-vous dès aujourd'hui pour le cas où je ne vous verrai pas avant. Abercrombie Smith posa sa pipe et se rassit à son bureau. Mais malgré toute sa volonté, il ne put fixer son esprit. À tout instant, il pensait à son camarade de l'étage inférieur et au petit mystère qui planait sur son appartement. Puis il songeait à l'attaque singulière dont Norton avait été victime et à la rancune que Bellingham lui gardait. Ces deux idées le hantaient comme s'il existait entre elles une connexion intime. Et cependant, le soupçon était trop vague pour que Smith pût se prononcer nettement. « Au diable cet individu » grommela-t-il en jetant par terre son livre de pathologie. « Il m'a empoisonné une soirée en m'empêchant de travailler et ce serait une raison suffisante, s'il n'en existait pas d'autre, pour que je lui batte froid à l'avenir. » Pendant 10 jours, l'étudiant en médecine se plongea si bien dans ses livres qu'il ne vit aucun de ses voisins de la tour et ne fit même pas attention aux bruits environnants. Aux heures auxquelles Bellingham avait pris l'habitude de venir, il se barricadait chez lui et faisait la sourde oreille lorsqu'il frappait à sa porte. Pourtant, comme il descendait l'escalier un après-midi, la porte de Bellingham s'ouvrit brusquement et le jeune Monkhouse-Lee en sortit, les yeux hagards et les joues empourprées de colère. Bellingham le suivait de près. Son visage huileux et malsain avait une expression étrange. « Imbécile ! Cria-t-il, vous me le paierez !»« C'est possible, dit l'autre, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Tout est rompu, je ne veux plus en entendre parler. » « Pourtant, vous avez promis. »« Oh, cette promesse-là, je la tiendrai. Je garderai le silence. Mais j'aimerais mieux voir ma petite Ève dans son cercueil que... »« Je vous le répète, tout est rompu. Nous ne voulons plus vous voir. » Smith, malgré lui, surprit ces fragments de dialogue, quoiqu'il eût pressé le pas pour ne pas être mêlé à leur discussion. Une scène très violente venait certainement de se passer entre eux et Lee allait faire rompre le mariage de sa sœur avec Bellingham. Smith rappela la comparaison qu'avait faite Rassi du crapaud et de la tourterelle et approuva ce projet de rupture. La figure de Bellingham n'était rien moins qu'avenante sous l'action de la colère et, dans son exaspération, c'eût été une folie de lui confier une innocente jeune fille. Tout en marchant, Smith se demandait quelle avait bien pu être la cause de cette querelle et la nature de la promesse faite par Monkhouse-Lee à laquelle Bellingham attachait une telle importance.